Il est 7h.
Il n'y aura pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
L'heure des comptes pour les agriculteurs dans les vergers, dans les vignes. Ils ont vu leur culture gelée ces dernières nuits et les dégâts considérables concernent toute la France. Elle voulait attaquer une église près de chez elle, à Béziers. On en sait plus ce matin sur le projet d'attentat de la jeune femme de 18 ans arrêtée le week-end dernier. Elle avait tout consigné dans un cahier. Dans ce journal aussi, des cultures d'un nouveau genre qui prennent racine en France dans des hangars sans fenêtres. Le dossier de la rédaction ce matin sur ces fermes high-tech où les plantes poussent grâce à des lampes et des nutriments. Et puis c'est une conséquence du confinement. Les installations de piscines en forte hausse l'an dernier, plus 30%. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, suivi du regard international, Vincent Hervouet.
Les Allemands négocient l'achat du vaccin russe. Angela Merkel fait cavalier seul, indifférente à ce que fait l'Europe et à ce que dit la France.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
Genou à terre des athlètes, menace de boycott de certains pays. Les Jeux Olympiques peuvent-ils encore afficher une neutralité politique?
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une semaine noire pour les arboriculteurs et les viticulteurs. Noire comme les bourgeons et les plantes après le gel. Les températures négatives des dernières nuits ont ravagé les cultures et ce dans toute la France. De nombreuses récoltes sont compromises. Pour Europe 1, Caroline Baudry.
Des bouteilles de vin étiquetées 2021, Guilhem n'en remplira que très peu cette année. Après deux nuits de gel, ce viticulteur dans l'Hérault a perdu 95% de sa future récolte.
Alors quand vous vous réveillez, vous apercevez pas de grand chose puisque les vignes sont vertes, mais parce qu'elles sont vertes, parce qu'elles sont congelées tout simplement. Puis au premier rayon du soleil, quand la glace se fond, bien, vous avez votre végétal qui devient tout marron, qui sèche tout simplement, les cellules sont mortes, les cellules ont éclaté, elles se vident de leur eau.
Dans le Bordelais, 30 à 40% des vignes ont été frappées par le gel, même constat pour les arbres fruitiers, beaucoup sont décimés, comme la moitié des pommiers et poiriers de Michel, agriculteur en Seine-et-Marne.
Il n'y aura pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
Certains craignaient de revivre le terrible gel de 2017. En fait, l'épisode de ces derniers jours a été plus intense et plus étendu, explique Jérôme Despé, secrétaire général de la FNSEA, premier syndicat agricole français.
Excepté la Corse, quand j'ai fait le tour de France, je n'ai pas une région qui n'est pas concernée par cet épisode donc de gel. Il y a plusieurs milliers d'hectares qui sont touchés avec des pertes à 100%.
La FNSEA qui est encore en train de recenser les dégâts alors qu'un autre épisode de gel est redouté en début de semaine prochaine.
Et dès hier soir, le ministre de l'Agriculture a annoncé l'activation du régime de calamité agricole promettant des aides pour les agriculteurs.
Le gouvernement qui s'inquiète de la saturation des hôpitaux. La situation est grave, a dit hier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
Plus de 30 000 malades du Covid toujours hospitalisés, dont un peu plus de 5 700 en réanimation. Et si les transferts de patients se sont avérés difficiles ces dernières semaines à cause de l'état des malades ou de l'opposition des familles, ce sont désormais des transferts de soignants qui s'organisent entre établissements.
Illustration avec vous, Stéphane Place à Hendaye, au Pays Basque, où l'hôpital est lié à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Là-bas, des infirmières et des aides-soignants se sont portés volontaires pour prêter main forte à leurs homologues parisiens.
Oui, dans une dizaine de jours, Julie et Henriette, aides-soignantes ici à l'hôpital Marin d'Hendaye, partiront à leur tour prêter main forte à leurs collègues des hôpitaux de la région parisienne.
Hôpital Antoine Béclair à Clamart. Normalement, il y a une formation de 3 jours en immersion directement là-bas. Parce que la réa, bon, c'est un service particulier.
Je suis originaire du 95, ça me paraissait logique d'aller donner un coup de main. C'est être solidaire.
10 infirmiers, 10 aides-soignants déjà sur place ou se préparant à prendre le relais, tous volontaires pour ces missions de 15 jours. Le docteur Brigitte Soudry est la directrice médicale de crise de l'hôpital Marin d'Hendaye.
3 infirmiers égale 1 lit de réa de plus. Donc là, 20 personnes de plus, c'est X lits qui peuvent fonctionner. En plus, les personnes qui sont parties, elles vont travailler en 12 heures. Une implication majeure.
Des renforts possibles grâce aux efforts aussi de réorganisation de l'hôpital basque que dirige Delphine Barre.
Ça ne suffit pas non plus de pouvoir revenir sur des jours de repos ou des heures supplémentaires. C'est aussi des déprogrammations malheureusement, mais qui sont bien sûr beaucoup moins importantes que dans d'autres secteurs, notamment de chirurgie. L'équipe médicale de l'établissement qui fait l'effort également de solidarité, puisque nous avons fermé un secteur de 10 lits pour permettre de récupérer du personnel et de le redispatcher sur des absences inhérentes au renfort parisien.
Un engagement, une solidarité se traduisant ici par un nombre plus important de volontaires que de missions de renfort prévues pour l'instant.
Stéphane Place à Hendaye pour Europe 1, des volontaires dont certains ont même décidé de rester une semaine de plus en renfort en Ile-de-France. À 4 jours de la mise en vente des autotests en pharmacie, la mise en garde de l'Académie de médecine sur les tests nasopharyngés nasopharyngée. Un prélèvement trop timide pourrait exposer à un faux négatif. Un prélèvement trop profond peut s'avérer dangereux. L'Académie préconise de réserver la réalisation des tests aux professionnels de santé formés.
Une école en trois lettres. L'ISP remplace donc l'ENA. Europe 1 vous le révélait hier matin. L'École nationale d'administration est supprimée au profit d'un futur institut du service public.
Louis Dragnel, comment fonctionnera ce nouvel institut en termes de recrutement ou de formation ?
Eh bien, première nouveauté, cette école qui restera à Strasbourg aura pour vocation de diversifier son recrutement avec des étudiants au profil sociologique plus varié et davantage issus du monde universitaire. Pour ce qui est de la formation, l'Institut du service public disposera d'un tronc commun pour les élèves des 13 écoles de la haute fonction publique, comme l'École nationale de la magistrature ou l'École des commissaires de police. Le contenu du tronc commun n'est pas encore très précis, mais on sait qu'il portera sur des problématiques actuelles, valeurs républicaines, laïcité, inégalité, discours scientifique. Autre nouveauté, la formation continue destinée aux hauts fonctionnaires en poste, avec notamment la création d'une école de guerre de la haute fonction publique, inspirée des armées pour sélectionner les hauts potentiels. Enfin, l'enseignement des matières fondamentales perdurera et si le classement de sortie est maintenu, les meilleurs élèves ne pourront plus choisir une affectation dans les grands corps de l'État, mais dans des missions opérationnelles et de terrain, comme c'est déjà le cas pour le corps préfectoral. Les élèves du futur ISP rejoindront ensuite un corps unique des administrateurs de l'État, puis seront affectés à des postes en fonction des besoins du pays.
Friture sur la ligne entre Paris et Alger, la visite de Jean Castex prévue dimanche en Algérie, reportée officiellement pour cause sanitaire. En réalité, les autorités algériennes n'auraient pas apprécié le format réduit de la délégation française avec 4 ministres. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8h.
7h07 sur Europe 1. C'est bien un projet d'attentat qui a été déjoué le week-end dernier à Béziers. La principale suspecte, âgée de 18 ans, a été mise en examen et écrouée hier soir.
Et Guillaume Bier, on en sait plus désormais sur son profil et ses intentions.
Oui, c'est dans un cahier à spirale que le projet terroriste de cette jeune femme était consigné. Sur plusieurs pages, des notes manuscrites évoquant l'État islamique, des projets d'action violente et le schéma d'une église située près de chez elle, sans doute là qu'elle envisageait de passer à l'acte. Dans son cahier encore, une recette de fabrication d'explosifs et chez elle, tous les ingrédients pour faire du TATP, cet explosif artisanal déjà utilisé dans plusieurs attentats. Radicalisation solitaire pour cette jeune femme qui n'allait plus en cours depuis 2 ans. Jamais été condamnée, jamais attiré l'attention des services de renseignement français, malgré la propagande djihadiste retrouvée dans son téléphone. En revanche, de l'autre côté de la Méditerranée, cette jeune radicalisée est apparue dans les radars des renseignements marocains. Ce sont eux qui annoncent avoir détecté le projet d'attaque imminent et qui auraient prévenu leurs homologues français jeudi dernier, 48 heures avant les interpellations à Béziers.
Guillaume Bier, un butin estimé à 100 000 euros, braquage hier soir au sein du palace parisien le Georges V, près des Champs-Élysées. Armé d'un pistolet, un homme a fait main basse sur des bijoux présentés dans le hall de l'hôtel. Un complice l'attendait à l'extérieur. Le duo a pris la fuite sans faire de blessés.
C'est notre ambition tous les matins, notre promesse même, vous raconter ce monde qui change. Nouvelle illustration ce vendredi avec ce qui sera peut-être l'agriculture du futur. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
C'est une alternative qui est en train de se développer. Les fermes verticales. Une jeune entreprise qui s'appelle Jungle vient de lever 42 millions d'euros pour bâtir 3 usines. Vous avez bien entendu, on parle d'usine. Oui, d'usine à plantes. Virginie Salmen, vous avez pu visiter la première d'entre elles. C'est près de Château-Thierry dans l'Aisne. Mmh. À quoi ça ressemble ?
Alors, cette ferme verticale, c'est un hangar industriel truffé de tuyaux et de lampes. Il faut s'habiller comme pour entrer dans un bloc opératoire. Alors, combinaison blanche intégrale, sur chaussures, charlotte sur la tête, pour ne pas contaminer les jeunes plants. À l'intérieur, aucune fenêtre, mais des plantes sur 10 mètres de hauteur.
Vous avez des herbes aromatiques, du basilic vert, de la coriandre, de la ciboulette, du persil plat, mais également des variétés un peu plus sophistiquées, du basilic citron, du basilic thaï.
Il y a aussi des salades, des épinards, du cresson et de nouvelles espèces sont testées en permanence. La croissance de ces plantes est ultra calibrée, des lampes à LED reproduisent la luminosité du soleil du matin, du midi, du soir, il y a aussi la nuit. La température est contrôlée, 18 degrés la nuit, 22 le jour, c'est l'été toute l'année. Les plantes ne sont pas dans la terre mais dans un bain d'eau et de nutriments ajustés à leurs besoins pour une croissance optimale de 20 à 30 jours selon les variétés. Le cofondateur de Jungle, Gilles Dreyfus.
On a une précision absolue sur le poids, le calibrage, la concentration des feuilles, le goût, l'odeur, la couleur et la charge nutritive et vitamineuse. Comme on optimise l'ensemble des paramètres de culture, on a des cycles de culture qui sont plus courts que dans la nature. ce qui veut dire qu'on multiplie les cycles. Et donc, il y a une notion de rentabilité et d'économie qui est très importante. Et comme on est en environnement contrôlé, on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques de pucerons, de bêtes ou d'insectes. Et donc, on a absolument 0,0% recours aux pesticides, herbicides, fongicides.
C'est donc moins de produits que dans le bio, hein, qui a le droit d'utiliser quelques pesticides, souvent d'origine naturelle. Cette méthode de culture donne 10 à 30 fois plus de rendement que sous serre ou en pleine terre. 50 000 plantes ont déjà été produites par Jungle et l'objectif, c'est de passer à 10 millions.
Et ce bruit qu'on entend, Virginie, c'est quoi ?
Alors c'est ça, le prix de la salade,
ça pourrait. J'ai demandé, c'est l'extracteur d'air qui est renouvelé en permanence.
Ça fait un peu Star Trek.
C'est assez étonnant, ouais, c'est assez déroutant. Virginie, basilic, persil, salade, c'est ce dont vous nous avez parlé. Mmh. C'est bien, mais on n'aurait pas des gens avec ça.
Alors les fermes verticales, effectivement, n'ont pas l'ambition de devenir l'alpha et l'oméga de l'agriculture, mais une alternative sérieuse. De nouvelles espèces sont testées en permanence, des framboises, des myrtilles. Le tout, c'est de réussir à rester compétitif. Donc il faut que la taille de la plante permette d'être cultivée en étagère, mais d'autres choses sont possibles, effectivement.
Et ces plantes, vous les avez goûtées, c'est bon ?
Alors c'est très bon. Des plantes avec effectivement beaucoup de goût, par exemple le basilic est très très bon.
C'est l'été toute l'année. Ouais,
en même temps. Voilà, donc c'est vraiment très calibré. Et ce qui est bluffant, c'est que toutes les plantes que j'ai vues sont parfaites. Il n'y a pas de feuilles jaunes ou rabougries.
Au risque de jouer un peu les rabat-joie ce matin, c'est quoi le bilan environnemental de ces usines à plantes ?
Alors, dans la balance, il y a un rendement bien plus élevé qui est intéressant. Le bilan de l'eau est bon puisque l'entreprise fait 100% de récupération d'eau de pluie. Les dirigeants de Jungle reconnaissent qu'il faut encore optimiser la consommation d'électricité. Et puis pour le transport, leur point fort, c'est qu'ils livrent en circuit court. Les magasins sont à moins de 100 km du lieu de production.
Et la France est la seule à se lancer dans ce domaine ou il y a d'autres acteurs en Europe ?
Alors non, justement, les fermes verticales de cette ampleur sont déjà au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne. Jungle, c'est la plus grosse entreprise du genre ici en France, avec une ferme dans l'Est, bientôt une dans l'Ouest, et la plus grande qui sera dans le Sud de la France.
Voilà, peut-être donc des grands hangars à culture à l'extérieur de nos villes. Merci Virginie Salmen.
Cette tendance-là est directement liée au confinement, au besoin d'améliorer son cocon où l'on a passé beaucoup de temps ces derniers mois, il faut bien le reconnaître. Jamais les Français n'avaient autant fait installer de piscine.
Oui, l'an dernier, les carnets de commandes des professionnels ont explosé, Emmanuel Dutheil.
C'est simple, hein. On n'a jamais installé autant de piscines en France qu'en 2020. Imaginez, il y a près de 30% de piscines en plus. Le marché se porte bien depuis des années, mais les confinements ont accéléré les demandes. Jean-Louis Desjoyeaux, le patron de Desjoyeaux, le leader du secteur, le dit, c'est hallucinant.
La pandémie a dit on ne peut pas partir à l'étranger, on ne savait pas où on pourrait aller en France. Donc eh bien, les gens se sont recentrés sur leur résidence principale ou résidence secondaire pour ceux qui pouvaient bouger. Ça nous a permis de finir avec une belle croissance.
Alors, ces piscines sont plus petites qu'avant, les terrains étant eux-mêmes plus petits. Plus petites, mais toujours plus équipées, selon Joëlle Pulinx-Chalet, la directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine.
Nous faisons aujourd'hui des piscines beaucoup plus confortables, faciles à entretenir, la plupart du temps qui sont chauffées par une pompe à chaleur et beaucoup plus agréables à l'utilisation parce que finalement, la première raison d'acheter une piscine familiale, c'est le bonheur en famille.
Budget moyen, 24 000 euros. C'est au nord de la France que la progression de piscine est la plus importante et tous les professionnels le disent. Cette année s'annonce également exceptionnelle.
Emmanuel Dutheil.
Envie de creuser, oui. je me reconnais dans ce que dit Emmanuel. Tiens, on a... Puis la moitié nord, il faut dire que la moitié sud, ils étaient déjà équipés, pour beaucoup. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Raphaël Chevrier, auteur de Candy la science, c'est le tête-à-tête Europe Matin. Avec lui, nous allons interroger la culture scientifique des Français dans cette époque où les blouses blanches sont à la une. Le physicien vulgarisateur scientifique Raphaël Chevrier à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et la France s'engage à ne pas augmenter les impôts et à baisser les dépenses publiques dans les années qui viennent. Ce sera dur.
Chiche, à tout de suite sur Europe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La France se fixe un objectif ambitieux pour l'après-crise, pas de hausse d'impôts et baisse des dépenses publiques. Est-ce que c'est réaliste ?
Bah, on l'a jamais fait. Alors, effectivement, très ambitieux.
Merci Nicolas Barré, à lundi.
Vous savez, est-ce qu'on peut nous croire quand on affirme cette double promesse ? Si on était au tribunal, on dirait que les apparences sont contre nous. La France est un multi-récidiviste des hausses d'impôts et du dérapage des dépenses publiques. Elle a sans arrêt manqué à sa parole depuis 47 ans, c'est-à-dire depuis que nous avons un budget en déficit. Alors, sur le volet impôts, il faut néanmoins faire crédit à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire d'avoir tenu le cap. Les impôts ont baissé de 50 milliards sur le quinquennat. quinquennat, moitié pour les entreprises, moitié pour les ménages. Et quand Bruno Le Maire affirme presque tous les jours qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est autant une promesse qu'il formule qu'un bilan qu'il défend, et force est de constater qu'il ne dévie pas de cette ligne.
Mais la pression est forte, hein. D'autres pays font le choix inverse, et même le FMI estime qu'il serait légitime d'augmenter les impôts.
Oui, alors la différence, c'est que les autres pays ont tous des prélèvements obligatoires plus faibles que nous. Donc tant mieux s'ils convergent vers nous, ça réduira l'écart, mais enfin il reste de la marge. Nos prélèvements obligatoires sont plus élevés de 6 points de PIB par rapport à la moyenne de la zone euro. 6 points de PIB, ça fait quand même 120 milliards d'euros. Si nous étions dans la moyenne, ça veut dire que nous paierions chaque année 120 milliards d'euros de moins en impôts et en cotisations sociales. Voilà pourquoi Bercy ne veut pas alourdir encore la barque. Cette promesse, espérons-le en tout cas, est tenable.
Et l'autre, celle de baisser les dépenses.
Alors ça, c'est ce que vient de promettre la France, là, à Bruxelles, avec ce qu'on appelle le programme de stabilité qui prévoit de diminuer la part des dépenses publiques dans la richesse nationale jusqu'à la fin du prochain quinquennat, donc 2027. Promesse beaucoup plus incertaine, car pour y arriver, il faudrait que les dépenses publiques ne progressent en fait que d'un tout petit 0,7% par an pendant toutes ces années. Or, depuis la naissance d'Emmanuel Macron en 1977, eh ben, ça n'est jamais arrivé. C'est donc assez irréaliste, ça fait partie de ces promesses qu'on fait à Bruxelles et qui agacent nos partenaires, car ils ont pris l'habitude que nous ne les tenions pas. Ce faisant, nous nous punissons aussi nous-mêmes et nous nourrissons le ras-le-bol fiscal des générations futures. Gros enjeu d'ailleurs pour le prochain quinquennat.
Oui, clairement, et la double promesse, les impôts, la dépense. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h19 et c'est l'heure du regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'Allemagne négocie avec Moscou l'achat du vaccin Sputnik V.
Oui, c'est avec une colossale finesse que le ministre allemand de la Santé a annoncé hier après-midi qu'il avait l'intention de nouer le dialogue avec Moscou pour savoir quand et quelle quantité de vaccins pourraient être livrés. Bref, un jour, peut-être, faut voir, pourquoi pas. Sur Twitter, les créateurs du Sputnik ont répondu avec la brutalité d'un knout. Les discussions ont débuté avec Berlin. Nos amis allemands sont gênés, et ça se comprend. Ils négocient avec Moscou alors que l'Union européenne a refusé de le faire. Ils négocient sans attendre le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Ils négocient bien que Paris considère le vaccin comme un outil de propagande et accuse les Russes de vouloir déstabiliser l'Europe. Et les Français qui ont suivi l'Allemagne en suspendant 4 jours le vaccin AstraZeneca ont de quoi se sentir trahis. En plus, cette trahison ne servira à rien. Si l'on écoute le commissaire Thierry Breton, le Sputnik décollera trop tard, en juin ou plus tôt, alors qu'en juillet, suffisamment d'Européens devraient avoir été vaccinés pour prétendre à l'immunité collective.
Pourquoi est-ce que Angela Merkel fait cavalier seul ?
Aucun de ses arguments ne l'a convaincue. On juge une politique à ses résultats et ceux de l'Union européenne sont médiocres. Angela Merkel est à l'heure du bilan. Elle semble indifférente à sa place dans l'histoire. C'est même assez fascinant de voir ce manque de narcissisme chez Mouti. Elle n'a pas de surmoi européen et seul importe désormais l'intérêt de l'Allemagne, c'est-à-dire la santé des Allemands. Elle ne va pas les sacrifier à l'idéal d'unité européenne ou à la vie du couple franco-allemand qui existe surtout dans la tête des dirigeants français. Elle veut tenir sa promesse qu'à la fin de l'été, tous soient vaccinés et ça tombera au mieux en même temps que les élections générales de septembre.
La semaine dernière, elle a demandé pardon.
Oui, parce qu'elle n'a pas pu mettre le pays sous cloche pour les fêtes de Pâques. Ensuite, elle a accusé les Länder d'être responsables de la pagaille sanitaire. Ils ont fait n'importe quoi. D'ailleurs, ils continuent. Avant-hier, la Bavière a passé commande de millions de doses de Sputnik. Et hier, c'est le Mecklembourg-Poméranie-Antérieure qui en a fait autant, je vais y arriver. Merkel les suit et c'est ainsi qu'elle les dirige.
Oui, ne pas confondre Merkel et le Mecklembourg-Poméranie. Les Länder allemands, oui, c'est parfois un peu compliqué. Merci Vincent. Angela Merkel, dont on reparlera avec mon invité à 7h40, physicienne de formation. Je vais interroger la culture scientifique de nos dirigeants avec Raphaël Chevrier, le physicien. Dans un instant, l'édito sport de Virginie Fulpin, suivi de Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Parfois, quand je parle de la couronne d'Angleterre à Virginie Fulpin, elle me répond « ça me fait une belle jambe ». C'est pas très poli.
C'est exactement mon genre.
Mais ça nous donne l'occasion de nous poser la question « d'où vient cette expression.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'heure de l'édito. J'allais dire l'édito politique. Non, ça c'est Nicolas Bétou à 7h50. L'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Quoique, géopolitique en tout cas. Entre les États-Unis qui voudraient discuter d'un éventuel boycott des JO d'hiver de Pékin 2022 et la Corée du Nord qui a annoncé que ses athlètes ne participeraient pas aux Jeux de Tokyo, le mouvement olympique connaît des secousses et pour vous, les Jeux olympiques ne peuvent plus être totalement apolitiques.
La neutralité politique fait partie de la charte olympique. Elle est même un des fondements de l'olympisme. D'ailleurs, l'an dernier, quand de nombreux sportifs mettaient le genou à terre pour protester contre les violences policières à l'encontre des Noirs aux États-Unis, le CIO avait tout de suite réagi en rappelant que tout geste qui revêt une signification politique restait interdit aux Jeux olympiques et paralympiques. Mais là, le comité américain vient d'autoriser ses athlètes à lever le poing ou à s'agenouiller pendant l'hymne national lors des sélections pour les JO. Ça ressemble à une révolution. Certes, ça n'est pas au moment des Jeux, seulement lors des qualifications américaines pour Tokyo, mais on parle des États-Unis, la nation qui récolte le plus de médailles. Ce serait étonnant que les sportifs qui mettent un genou à terre lors des sélections de leur pays ne bougent plus le petit doigt quand ils seront sur un podium au Japon. Certains peuvent dire que c'est le loup qu'on introduit dans la bergerie. Je ne suis pas d'accord. Accepter ce genre de geste, c'est surtout se conformer à l'humanisme prôné par l'olympisme. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle manifestation politique, mais que les athlètes puissent montrer leur soutien, par exemple, à la lutte contre le racisme ou le sexisme. Oui, c'est œuvrer pour l'universalité qui est la base même des Jeux Olympiques.
De toute façon, ça semble impossible pour le mouvement olympique d'échapper à la politique.
Les États-Unis, encore eux, veulent discuter avec leurs alliés d'un éventuel boycott des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Le boycott de la Chine dans le mouvement sportif, c'est un serpent de mer. Honnêtement, ce serait étonnant qu'on en arrive à cette extrémité. Mais rien que le fait de l'évoquer, c'est de la politique. Et le CIO en a parfaitement conscience. La neutralité a ses limites. Au début de la semaine, la Corée du Nord a annoncé que ses athlètes ne participeraient pas aux Jeux de Tokyo, officiellement pour des raisons sanitaires. Les conséquences sportives sont limitées, même si à Rio en 2016, les Nord-Coréens avaient remporté 9 médailles. Mais encore une fois, les conséquences sont surtout politiques et géopolitiques. Quand la Corée du Nord a participé aux Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018, ça a été le début d'un rapprochement entre les deux Corées. Là, au contraire, à Tokyo, on sait donc déjà qu'il n'y aura pas de relance du dialogue. Tout est politique aux Jeux Olympiques, les gestes des athlètes comme les signes des États.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport. 7h27, à présent nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Virginie, bonjour à tous. Quand parfois on vous donne une nouvelle qui ne vous concerne pas plus que ça, quand on vous fait un compliment qui ne vous touche absolument pas, une expression est employée encore aujourd'hui, enfin je crois. C'est « ça me fait une belle jambe ».
Oui, ça me fait une belle jambe, je l'utilise. C'est un peu passé de mode, c'est juste un souci de génération. Je pense qu'on l'utilise plus dans la vôtre que la mienne.
Oui, bon, on va peut-être finir la saison en restant amis. Hein, parlons plutôt mode masculine, voulez-vous ?
Allons-y.
À la Renaissance, les vêtements prennent de l'importance. Au XVIe siècle, ils vont se resserrer pour devenir carrément adhérents au corps. Sous la ceinture, c'est la mode des choses collantes avec des hautes choses qui se situent entre le genou et la ceinture. Au genou, toujours chez les hommes, on peut trouver de la dentelle. Nous portons des bas appelés des canons. Tout ça pour dire que le galbe, des jambes fuselées, tout ceci était le gage d'une séduction réussie. Les hommes qui se savaient élégants grâce à leurs gambettes faisaient les coques. On disait qu'ils faisaient belles jambes. Antoine Furtière, poète du début du XVIIe siècle, pour parler d'un habit qui ne le mettra pas plus en valeur que cela, va dire « cela ne me rendra pas la jambe mieux faite ». Et au XIXe siècle, on arrive à faire la belle jambe. Pour arriver à la négation ironique qu'on connaît aujourd'hui, ça me fait une belle jambe. Voilà, chez l'homme la jambe était donc essentielle, mais chez la femme aussi. Souvenons-nous de cette citation de Casanova, un peu grivoise je dirais.
Allons-y.
Dans l'examen de la beauté d'une femme, la première chose que j'écarte, ce sont les jambes.
Voilà. À 16h tout à l'heure, on vous retrouve pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit le prix Goncourt, Romain Gary et Émile Ajar aussi, David Bowie et Ziggy Stardust aussi, et le catcheur Starhulk Hogan et Terry Eugène Boléa aussi. Leur point commun, oui, ils se sont créés chacun un personnage devenu aussi célèbre qu'eux.
À tout à l'heure, 16h pour Historiquement Vôtre.
7h29, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Moi, ce que j'écarte, c'est les rideaux. Les rideaux écartés, vous verrez chez vous, chers amis, que la nature a cessé de souffrir et que vous allez voir enfin des températures, vous allez avoir des températures clémentes, entre 1 et 9 degrés à l'heure où nous parlons, et dans l'après-midi entre 13 et 21 degrés. Et puis vous avez maintenant la pluie. Nous allons passer la pluie. Alors aujourd'hui, la pluie sera quand même assez éphémère pour l'instant, mais c'est demain et après-demain que ces pluies seront particulièrement intenses. Aujourd'hui, nous aurons un passage pluvieux près de la Méditerranée sur le Languedoc, le Roussillon et les Cévennes, et puis déjà un passage pluvieux qui se manifeste sur le Pays Basque, sur le Poitou-Charentes. Il va gagner sous forme d'averse, le Limousin, le Centre, le Morvan. Peu de régions y échapperont en réalité, si provisoirement la Normandie, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, ces régions n'auront de la pluie qu'en fin de journée ou en début de soirée. C'est notamment sur Paris. Mais dans l'ensemble, ce sera une journée, disons, allez, on va respirer.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Et c'est parti pour la déclaration des revenus de 2020. Vous avez jusqu'à fin mai pour la remplir avec pas mal de changements cette année, vous allez voir. Dans ce journal, un couple de gendarmes attaqué à son domicile par un agresseur venu se venger. Sans surprise, à l'Assemblée nationale, le projet de loi euthanasie s'est heurté à un mur d'amendements. Le boom du marché du vélo, électrique notamment. Et puis le nouveau single de Clara Luciani, avant-goût de son prochain album qui sort en juin.
Juste après ce journal, le tête-à-tête Europe Matin avec Raphaël Chevrier, physicien et vulgarisateur scientifique qui publie Candide la science aux éditions Buchet-Chastel. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Mon père, il disait les technocrates, c'est des mecs, on leur donnerait le Sahara. Dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs.
Eh bien voilà, on va voir si la suppression de l'ENA, c'est comme la gestion du Sahara vue par Coluche.
Et Nicolas Canteloup, dans la foulée, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. C'est Philippe Devilliers qui répondra ce matin aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est peut-être le moment de l'année que vous redoutez le plus si vous souffrez de phobie administrative. La campagne de déclaration de revenus 2020 est lancée. Vous avez jusqu'au 20 mai pour envoyer les versions papier, entre le 26 mai et le 8 juin pour la version numérique.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Plusieurs mesures ont été prises cette année face à la situation exceptionnelle liée à la crise.
Oui, déjà pour tenir compte de l'explosion du télétravail, ceux qui le vivent le voient bien, hein. On imprime chez nous, c'est plus de papier, plus d'encre, vous avez peut-être aussi installé spécialement Internet. Eh bien, deux cas de figure, soit votre entreprise vous verse une indemnité, alors vous pouvez la déduire de vos revenus jusqu'à 550 euros pour l'année, soit vous faites une déclaration aux frais réels et vous pouvez alors déduire vous-même ces fameux frais liés au télétravail. Autre nouveauté, la prime Covid de 1500 euros versée par certaines administrations de santé, notamment les hôpitaux, est déduite de vos revenus. Pareil pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période d'état d'urgence entre le 16 mars et le 10 juillet. Mais tout ça est normalement fait automatiquement si votre employeur l'a bien déclaré à l'administration fiscale. Enfin, si vous avez fait un don à une association d'aide aux plus démunis l'an dernier, eh bien vous pouvez déduire non pas 50, mais 75% du montant de votre don cette année jusqu'à hauteur de 1000 euros.
Merci Carole Ferry. C'est une histoire qui aurait pu virer au drame. Près de Beauvais, dans l'Oise, un couple de gendarmes a été agressé à son domicile cette semaine.
Et deux hommes ont fait irruption dans leur logement de fonction, mais cette agression n'est pas du tout due au hasard, car l'un des suspects connaissait déjà sa cible. Il aurait agi par vengeance. Guillaume Bié.
T'inquiète pas, je sais où tu habites. Des mots menaçants prononcés à l'encontre d'un gendarme il y a quelques jours lors d'une banale affaire d'outrage. Mais l'auteur de ces propos est bel et bien passé à l'acte. Mardi soir, avec un autre homme, tous les deux ivres, ils fracturent la porte d'entrée de ce gendarme et pénètrent chez lui. Le militaire qui était avec sa femme sort de sa chambre, arme au poing. Il fait des sommations, mais l'un des agresseurs continue d'avancer vers lui. Alors le gendarme tire et le touche au bassin avant de lui prodiguer les premiers soins. Hospitalisé, cet homme est hors de danger. Son complice, lui, a été arrêté sur place par des renforts et présenté hier soir à un juge pour être mis en examen. Ces deux suspects de 18 et 25 ans devront s'expliquer devant la justice sur leurs intentions réelles. Certes, ils n'étaient pas armés, mais leur détermination sur fond d'alcool ne fait aucun doute. Ils savaient parfaitement chez qui ils allaient, souligne la procureure.
Guillaume Bié, chef du service police-justice d'Europe 1.
La politique. Finalement, Jean Castex n'ira pas en Algérie dimanche.
Il devait s'y rendre avec plusieurs de ses ministres. Matignon se justifie par le contexte sanitaire, mais le format de la délégation française aurait également été jugé insuffisant par les autorités algériennes, ce qui aurait donc précipité cette annulation. On y revient dans le journal de 8h. Le régime des calamités agricoles va être déployé pour venir en aide aux agriculteurs qui ont perdu une partie de leur production à cause des épisodes de gel cette semaine. Des centaines de milliers d'hectares de cultures touchés partout en France, selon le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
C'était attendu. La proposition de loi euthanasie n'a pas pu être soumise au vote à l'Assemblée hier. Il fallait d'abord examiner plus de 4000 amendements en quelques heures seulement.
Mission impossible donc. Alors d'un côté, on crie à l'obstruction parlementaire. De l'autre, on estime que l'examen du texte a tout de même pu dégrossir ce sujet épineux. Hélène Tarzian a suivi ces débats passionnés.
À la sortie de l'hémicycle, quelques députés improvisent une aide d'honneur au rapporteur de la loi, Olivier Falorni, malgré un vote final empêché par une avalanche d'amendements.
On savait qu'il y avait une obstruction, c'est consternante, hein. Mais nous avons voté l'article 1. Il instaure une assistance médicalisée active à mourir. C'est historique.
L'adoption de l'article est symbolique parce qu'il est transpartisan. Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a soutenu le texte, salue un bond en avant.
Mais on a avancé, puis ça va revenir. Ça va. De toute façon, c'est pas un truc qu'on avale d'un coup à la cuillère. C'est une idée qui doit faire son chemin. Elle doit avancer, elle doit mûrir.
Car pour l'heure, le débat s'est heurté à l'opposition ferme d'une poignée de députés LR à l'origine de plus de 2000 amendements. Parmi eux, Julien Ravier.
Chacun s'est battu avec ses armes. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Nous avons juste éclairer les débats. Non, il n'y a pas de gagnant puisque vous n'avez pas adopté votre proposition de loi.
Les partisans du texte espèrent maintenant que la majorité parlementaire ou le gouvernement se saisiront du sujet. Le débat mérite d'avoir lieu, a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, mais il a besoin de temps.
En revanche, cette proposition de loi a été largement adoptée par le Parlement hier, celle qui vise à protéger et promouvoir les langues régionales. On vous en parlait dans ce journal hier. Le texte permettra notamment d'instaurer un enseignement immersif, c'est-à-dire une grande partie du temps scolaire, en breton, en basque ou en occitan par exemple.
7h36 sur Europe 1. En voici un qui a bénéficié de la crise du Covid. C'est le vélo. Les ventes se sont envolées l'année dernière.
Et la petite reine a même été adoptée comme geste barrière. C'est en tout cas ce qu'affirmait ce matin Olivier Schneider, le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, invité du 5-7 de Sébastien Krebs. Et c'est vrai que c'est un moyen d'éviter les transports et leur forte affluence. Ajoutez à cela une volonté de préserver l'environnement. Et pour la première fois, les ventes ont dépassé le milliard d'euros en 2020. Maud Descamps.
Avec 500 000 vélos électriques vendus en France l'an dernier, la barre du milliard d'euros a été franchie pour la toute première fois. La crise Covid explique en partie cette très forte hausse des ventes. Le vélo électrique est une excellente alternative au transport en commun. Il s'en est donc vendu 29% de plus qu'en 2019. Des vélos de plus en plus haut de gamme, les Français ont dépensé en moyenne 2 079 € pour s'équiper. Un budget en hausse de 20%, observe Jérôme Valentin, président de l'Union Sport et Cycle.
Il y a exactement deux phénomènes qui justifient cette augmentation de prix. Une augmentation du confort, une augmentation des options. Mais il y a un autre phénomène, la demande a été supérieure à l'offre en 2020. Ce qui a fait que nous n'avons pas du tout fait de promotion de vélos ou de prix barré.
Revers de la médaille, les ventes de vélos classiques ont-elles baissé, moins 3% l'an dernier, mais il s'en est tout de même vendu 2 200 000 en France.
Et puis vous l'aviez sans doute découverte avec son titre phare, La Grenade, 3 ans après. Ça fait déjà 3 ans. Ouais. Clara Luciani revient avec son nouvel album.
Et celui-ci est baptisé Cœur et il sortira le 11 juin. Alors pour patienter, la chanteuse aux deux victoires de la musique en dévoile un premier extrait. Le reste, un single qui a une véritable signification. Et Clara Luciani l'explique au micro d'Angèle Châtelier.
Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
C'est une chanson de rupture, mais je la vois pas comme une chanson triste parce que finalement ça raconte l'histoire d'une femme qui dit écoute, tous nos échecs, ça je te les laisse et moi ce que je garde, c'est ce qui a été le plus beau de cette histoire, à savoir en fait une entente charnelle et ces plaisirs là quoi.
Le reste je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu.
Comme cette chanson, vous dites que ce deuxième album à venir est plus adulte.
Je pense que je me sens un peu plus en phase avec moi-même. Je suis pas non plus une vieille dame, mais j'ai 3 ans de plus et quand on est dans la vingtaine, en fait, c'est des années qui sont hyper importantes. C'est juste une version peut-être plus assumée de ce que j'ai voulu faire déjà sur le premier album.
Je sais, j'ai tout péché.
Votre raison de vivre, Clara Luciani, c'est les concerts. Vous étiez d'ailleurs révélation scène de l'année 2019 aux Victoires de la Musique. Comment vous vous sentez depuis un an sans public?
Je me sens un peu dépossédée de ma fonction. Je tiens bon, mais j'ai espoir de remonter sur scène très très vite.
Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Voilà, Clara Luciani qui sera l'invitée d'Émilie Mazoyer ce soir dans Musique. C'est de 20h à 22h sur Europe 1.
Merci beaucoup Sophie Echen. En Musique, ce journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h39.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h. 8h15, Philippe Devilliers, il publie « Les cloches sonneront-elles encore demain chez Pluriel ?» et il répondra aux questions de Sonia Mabrouk ce matin à l'occasion de parler de la suppression de l'ENA. Il en est issu, lui, en 1978, promotion Pierre Mendès France. Une suppression de l'ENA plus symbolique qu'autre chose, nous dira Nicolas Bétou dans 10 minutes, mais tout de suite, justement, on va interroger la formation de nos dirigeants, notamment leur formation scientifique, leur culture scientifique. Dans cette pandémie, mon invité reproche à l'exécutif de se cacher derrière la science pour s'exempter de son rôle de décideur. C'est le physicien Raphaël Chevrier, auteur de Candy la science aux éditions Bûcher-Chastel. Le tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h42 sur Europe 1. La science nous pose des questions dans notre vie de tous les jours. 5G, vaccins, homéopathie, manipulation du génome. Ces questions, mon invité y répond dans Candy la science chez Bûcher-Chastel, épidémiologiste improvisé que nous sommes à analyser des courbes à la télé comme nous le faisons depuis un an. C'est notre culture scientifique qui est interrogée aussi. Docteur en physique, vulgarisateur dans la presse, Raphaël Chevrier est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Raphaël Chevrier.
Bonjour.
Et bienvenue sur Europe 1. Ce matin, vous vous êtes donné une sacrée mission. Vulgariser la science, celle de l'actualité, celle des débats de tous les jours. Et finalement, si votre livre parle de sujets qui nous préoccupent, qu'est-ce qu'il dit des Français et de leur culture scientifique, de leur rapport à la science ?
Je pense qu'elle n'est pas évidente. C'est vrai que vous l'avez rappelé, la science, elle s'est imposée dans nos vies un peu du jour au lendemain avec cette crise. Donc on a appris à analyser des courbes, on a appris à analyser des données. Je pense que c'est très positif, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Je veux dire, le succès d'un site comme Covid Tracker, par exemple, c'est surréaliste que des gens aillent voir des données, des data comme ça, des courbes d'entrée à l'hôpital, de vaccination, etc.
Exactement. Ça c'est vrai. Et puis moi j'ai des amis qui se sont intéressés et qui ont adopté en fait dans leur langage une forme de démarche scientifique et j'ai trouvé ça très très positif. Alors évidemment, on n'a pas tout bien fait, on a fait quelques erreurs et je pense qu'on n'a pas forcément très bien aussi distingué les subtilités de la science. Qu'est-ce que la science veut dire ? Et puis la science n'est pas simplement une succession de théorèmes.
Alors justement, c'est quoi la science ?
Alors, la science, je commence mon livre justement par distinguer ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance, par exemple. Et si je peux le résumer de manière très, très simplifiée, la science, c'est une façon de questionner le monde et la nature qui nous entoure de telle façon que les réponses vont pouvoir être vérifiées par nous-mêmes ou par d'autres. Ça, c'est la vérifiabilité qui est à la base de la science. Par exemple, si je vous dis que la Terre est ronde, eh ben vous allez pouvoir le vérifier si vous avez les moyens en envoyant un satellite dans l'espace et puis en prenant une photographie de la Terre.
Les Grecs n'avaient pas de satellite, ils avaient trouvé ça avant nous. Cela dit, Raphaël Chevrier, entre la science et la croyance, il y a les hypothèses. Quand on fait de la science, quand on pratique la science, on pose des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse vérifiée.
En fait, vous avez la connaissance qui est finalement la science assez mature, hein, qui a abouti à une forme de consensus scientifique. Et puis vous avez, comme vous dites, la recherche, c'est-à-dire la science qui est en train de se faire à base d'hypothèses qui méritent d'être vérifiées, encore une fois par nous-mêmes ou par d'autres. Et ça, c'est la science dans laquelle se trouvait le coronavirus quand cette crise s'est abattue sur nous.
Évidemment, cette pandémie, elle a propulsé aussi les scientifiques, les blouses blanches, comme on dit maintenant, à la une, les professeurs de médecine. Et évidemment, comme on aime débattre, polémiquer dans ce pays, on se prend tous pour des sachants maintenant. Mais vous avez une expression, vous parlez de notre légitime ignorance.
Oui.
Est-ce que vous pouvez développer l'ignorance, on peut comprendre, la légitime ignorance.
Je pense que quand je parle de légitimité, c'est que c'est pas grave de ne pas savoir. Au contraire, ce qui est grave, c'est de vouloir croire. Ce qui est grave, c'est de ne pas supporter l'inconnu. Et je pense que dans cette crise, justement, on n'a pas supporté de ne pas tout savoir sur ce virus.
Et là, peut-être, y compris les scientifiques qu'on a peut-être eu du mal à dire « je ne sais pas » au début, en tout cas.
Les scientifiques, les politiques et nous-mêmes avons eu du mal à dire « je ne sais pas ». Et c'est vrai qu'on a un peu brouillé les pistes quand on a vu les scientifiques eux-mêmes, quand ils défilaient sur les plateaux. Moi j'ai un événement qui m'a un peu marqué, c'était le prix Nobel, Luc Montagnier, qui était intervenu sur un plateau télé et qui affirmait, et c'était son avis personnel, que le virus avait été créé en laboratoire à partir partir de, d'ADN de virus de, du VIH. Mmh. Personne autour du plateau n'a réagi. Et cette séquence, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et parce que ça a imposé, c'était une affirmation sans aucun fondement scientifique qui venait d'un prix Nobel.
Je ne sais même pas sur quelle chaîne c'était, Raphaël Chevrier, je ne m'en souviens plus. Mais sincèrement, en tant que journaliste, j'ai un prix Nobel en face de moi qui me dit quelque chose. Je ne vais pas m'amuser à lui dire c'est faux ce que vous dites.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, dans ce cas-là, c'est vrai que face à ça, comment les gens peuvent savoir qui écouter ? Et en fait, il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut faire un petit effort de recherche. Il faut savoir quel est le passif des personnes qui prononcent ce genre d'hypothèse. Et en l'occurrence, Luc Montagnier est un habitué des polémiques. Je pense qu'il faut aussi que les chercheurs soient clairs sur cette délimitation entre la connaissance, les hypothèses et puis leurs propres analyses. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers des exemples très concrets dans ce livre.
Ouais, et des questions qui nous concernent tous, évidemment, la 5G, les vaccins, la PMA, la manipulation du génome. Je vais en parler, mais je reste un tout petit instant sur cette pandémie. La première allocution télévisée d'Emmanuel Macron le 12 mars 2020, la première allocution consacrée au Covid. Un principe nous guide pour définir nos actions, il doit continuer de le faire, c'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Aujourd'hui, un an après, on a parlé de président épidémiologiste, c'est peut-être un peu grisant aussi la science.
Bon, je pense que déjà les vrais épidémiologistes se sont chargés de rappeler qu'on ne devient pas expert du jour au lendemain et que c'est le travail de toute une vie. Ensuite, moi je suis très content que le guide du président ait été depuis le début de s'informer sur les données et les informations scientifiques. Mais à ce moment-là, il faut aussi bien faire la différence entre ce qui relève de la science et là, pour le coup, ce qui relève de la décision politique. Et Macron ne pouvait pas gérer cette crise uniquement à partir de données scientifiques. Il prend des décisions politiques. Et c'est d'autant plus important de le comprendre que pendant le coronavirus, on réfléchissait sur la base de modèles qui étaient par nature imparfaits, partiels, et de données potentiellement évolutives. Et même si on avait des données scientifiques et des informations scientifiques parfaitement connues, en fonction des objectifs politiques que vous vous fixez, si vous voulez privilégier l'économie, l'éducation, les principes d'égalité, le sanitaire, vous allez prendre des décisions diamétralement opposées les unes des autres. Mais vous allez être cohérent des données scientifiques de base.
Et beaucoup plus récemment, dans une tribune au Monde, vous reprochez, alors Emmanuel Macron, son gouvernement, à l'exécutif de se cacher derrière la science pour s'exempter de son rôle de décideur.
Vous l'avez un peu rappelé dans sa première allocution, et puis je pense que c'est quelque chose qui est revenu au fur et à mesure. Il y a eu une tendance à utiliser les données scientifiques de manière un peu variable pour justifier des choix de confiner ou pas, même si effectivement il y a eu de plus en plus, le président Macron a assumé de ne pas suivre uniquement, pas la science, mais les objectifs sanitaires. Il a pris en compte plein d'autres aspects de notre société. Mais quand même, je pense que sur la dernière allocution, on avait l'impression d'avoir affaire à une nouvelle épidémie, où on a peut-être un peu attaqué les épidémiologistes sur leur modèle. Il y avait cette tentation d'habiller un discours politique avec des données et un discours scientifique.
Est-ce que nos décideurs, l'élite en France, on parlait de la suppression de l'ENA et on va reparler dans un tout petit instant. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés scientifiquement ? T'y rappelles comme ça, Angela Merkel est physicienne, par exemple. Est-ce qu'on a des... Nous, quand Cédric Villani est entré à l'Assemblée nationale, c'était un événement de voir un mathématicien à l'Assemblée. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème entre la filière littéraire, on va dire, les sciences humaines, et la filière scientifique ?
Je pense que vous avez répondu dans la question à cette interrogation. Aujourd'hui, quel scientifique, je ne parle pas forcément de médecin, mais quel scientifique siège à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, on sait que les couloirs des administrations sont principalement occupés par des gens qui sortent de l'ENA. L'autre grande école qui est polytechnique, ces gens-là préfèrent occuper des postes dans les entreprises et des postes beaucoup plus à consonance technique. Je pense que ça en dit long de la cassure qu'il y a, de l'image qu'il y a.
C'est plus scientifique, mais c'est plus ingénieur que sciences fondamentales et recherche, par exemple. Dans ce livre, je le dis à nos auditeurs, quand on dit la science, ça interroge aussi notre irrationnel, parce qu'on a un côté irrationnel quand on parle de 5G, quand on parle de vaccins, et on revient dessus avec de la science, des explications très claires. Je vous incite à lire Candy, la science, chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup, Raphaël Chevrier. Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. On en a besoin parce qu'on s'est tous un peu improvisé scientifique et en même temps on est tous un peu bouche bée devant ces courbes, ces statistiques. Depuis un an, on apprend aussi la méthode scientifique. Merci Raphaël Chevrier. 7h51 sur Europe 1. L'édito politique Nicolas Bétou. On va reparler de l'ENA dans un tout petit instant. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez ce matin sur la décision d'Emmanuel Macron de supprimer l'ENA, une décision dévoilée hier matin sur Europe 1.
Ah, ça c'est une réforme. La crise des Gilets jaunes a montré la détestation des élites. Supprimons la machine à former les élites. Les trois vagues de Covid ont souligné les ratés de l'administration. Supprimons l'élite de l'administration. L'ENA est
convaincu par cette décision.
Non, il est déterminé à continuer à gouverner, qu'il sait tenir ses engagements et qu'il ne craint pas de s'attaquer à ce symbole, l'ENA, dont il est lui-même le produit. Tenez, un symbole, voilà ce qu'est en réalité cette décision.
Mais pas plus qu'un symbole, je veux dire sur le fond, sur la réforme en elle-même.
Et ben pour que ce soit une bonne réforme, il faudrait être sûr que la suppression de l'ENA permette de régler le mal français, notre État. Le problème, ce n'est pas l'ENA, non, c'est ce qu'est devenu sa raison d'être, l'État. Le problème, ce n'est pas la qualité des hauts fonctionnaires formés dans cette école. Les pays étrangers envient souvent le niveau des élèves qui en sortent. Et son prestige à l'international est inversement proportionnel à sa réputation en France. Non, le problème, c'est que toute l'administration française fonctionne au diapason de ce qu'on apprend à l'ENA. Multiplication des strates de pouvoir, bouffissure des effectifs, fascination pour la paperasse ou refus d'être évalué sur des objectifs. Le problème, ce n'est pas la qualité de ces hauts fonctionnaires, ils sont souvent excellents, mais c'est ce qu'on attend d'eux comme travail et ce qu'on leur offre comme cadre pour l'accomplir.
Donc si je vous suis bien, la suppression de l'ENA pourrait bien ne rien changer.
Au mieux, ça peut ne rien changer, effectivement.
Au
pire, ça peut se dégrader. Parce que c'est peut-être désagréable à entendre, mais la vérité, c'est qu'un pays a besoin d'une élite au sens où il a besoin de gens de très haut niveau, sélectionnés, puis formés pour gérer des défis de très haute intensité. Bon, pour recruter cette future élite, il faut pouvoir promettre que le job sera passionnant, que la carrière sera attrayante, que la comparaison avec ce qui se passe dans les entreprises ou dans le reste du monde sera gagnante. Ce qu'on doit demain attendre de la future post-ENA, ce n'est pas de réduire son niveau d'exigence, non, c'est de sélectionner plus ouvert, de former plus large, de permettre des carrières plus diverses dans une administration plus efficace. Sinon, cette suppression pourrait vite ressembler à toutes ces réformes sorties depuis 75 ans du cerveau d'un énarque.
Merci Nicolas Bétou, merci votre édito politique. Tous les matins à 7h50, Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, 7h56.
C'était l'édito politique avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Tous les matins, Nicolas Cante le conseille à sa façon, l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Philippe Devilliers, écrivain fondateur du Puy du Fou et auteur du Jour d'après aux éditions Albin Michel et de ce livre Les cloches sonneront-elles encore demain chez Pluriel. C'est Manuel Valls qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à Monsieur Bétou à qui je précise, oui, que je n'ai pas fait, non. L'ENA. Ah. Monsieur Cabrol, bonjour, mes salutations. Bonjour. Écoutez, j'ai appris que Philippe Devilliers ouvrait un Puy du Fou en Espagne. Et ça tombe très bien parce que je dois vous confier que, petit, j'adorais les récits de chevalerie espagnole, Los Chevaliros, Las Cristianización, Juanita d'Arc, les Croisadas sur los Batos avec Los Chevos, l'Inquisition et les Decapitaciones. Non, j'adore. Alors, je le dis, s'il y a, oui, un poste à pourvoir à la direction, ou même en tant que chevalier, voyez-vous, bien, même jouer Judas, je prends. Ouais, je sens bien le rôle. Même au buffet, voyez-vous, je peux faire Don Quichotte de la plancha. D'autant que cela tombe bien. En France, je dois vous dire que je ne croule pas sous les demandes. En ce moment, j'ai quelques créneaux. Et ces créneaux, vous pouvez même les utiliser pour faire un château fort. Bref. Je peux prendre des dispositions.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours à 8h05. Philippe Devilliers répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure. Et Nicolas, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presque, 7h57.
Il est 7h59 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Le temps change, ça y est, les gelées disparaissent, il pleut un petit peu maintenant vers Mont-de-Marsan, Pau, Biarritz, La Rochelle. Donc la pluie arrive, nous avons rendez-vous avec la pluie pour les deux jours qui viennent. Alors un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup plus samedi et dimanche, où là vraiment il pleuvra copieusement. Et tant mieux, puisque nous sommes quand même en besoin et en quête d'eau sur notre pays pour les terres qui sont maintenant bien sèches. Bon, la semaine prochaine, le froid reviendra, mais dans une dimension beaucoup plus mesurée. Et il fera presque beau la semaine prochaine. Et puis, je vous avais annoncé le retour du soleil pour le 15 avril. Je confirme ces impressions, mais ce ne sera pas un ciel toujours limpide, notamment entre le 17 et le 20, où ça pourrait se gâter. Mais dans l'ensemble, la dernière quinzaine ou la deuxième quinzaine du mois d'avril sera relativement douce, entre 18 et 22 degrés. Je prends des risques en moyenne. Et puis le mois de mai s'annonce pas trop mal. Mais je vous dis ça avec mes ballerines, avec mes ballerines sur la pointe des pieds.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer. Il est 8h.